Nous allons voyager dans différents lieux. J'avais répondu favorablement à une invitation de Benjamin cette année, Benjamin Gentil, qui est le directeur de la Fabrique des communs pédagogiques, à me rendre à Marseille pour cheminer, réfléchir sur les classes dehors et toute l'éducation du dehors. Benjamin, c'est à toi.
Ça marche pas.
Si,
Si, c'est
c'est bon,
bon.
ça va arriver.
Vous m'entendez bien? Ok, super. Je peux. Ouais, c'est mieux comme ça. Je vais commencer par une digression. Comme ça, je vous la ferai pas après. Avant de vous parler de politique publique et de ce que peuvent les collectivités pour une ville à hauteur d'enfants, je voudrais vous parler d'un dispositif qui s'appelle les 4 saisons de la classe dehors, qui est un dispositif qu'on a mis en place qui vise à donner envie aux enseignants d'aller dehors régulièrement avec leurs élèves, avec une grande innovation pédagogique, une infolettre qu'on leur envoie chaque semestre, chaque trimestre. À l'automne, on a toujours une pratique un peu universelle qu'on essaye de promouvoir, c'était la lecture à voix haute dans l'espace public. Vous avez été plusieurs à mentionner les dangers des écrans depuis ce matin. On a évoqué tout doucement la nécessité pas, de non pas lutter contre, mais de donner d'autres aspirations, d'autres envies, de nourrir d'autres imaginaires. Et on a sollicité un écrivain dont je vais vous partager un très court texte qu'il a écrit, parce que comme ça nous fera une pause poésie, à l'attention des enseignants et des élèves pour les inviter à lire dehors à haute voix. Cet écrivain, c'est Patrick Chamoiseau, qui est un romancier qui a notamment eu le prix Goncourt pour Texaco en 92. Et voilà ses mots. Chers enseignants, chers élèves, ma joie, accompagnez votre automne de la classe dehors. Lire dehors, c'est comprendre que la langue a besoin de l'air libre, de l'amitié du vent, du risque de la pluie parfois, de ce que les herbes et les arbres et les pierres reçoivent du soleil. C'est restituer aux mots ces ailes qui échappent à la page, qui respirent et qui dansent avec le monde. Chaque lecture à grand vent, chaque parole libérée devient le pollen d'un autre imaginaire, celui de la relation. La relation, c'est la rencontre véritable de tous les détails du monde avec tous les autres détails du monde. Ainsi, chaque détail est un tout, et le tout ne peut s'envisager que dans une célébration respectueuse des détails. Quand la mise en contact devient une création, on l'appelle rencontre. Si bien que lire avec le vent, c'est entrer en contact créatif avec les forces et les couleurs de la voix, du chant, du murmure, du rire et du silence. C'est apprendre à voir et à vivre le monde autrement, à sentir que chaque mot peut appeler un oiseau, que chaque silence peut compléter le gloussement d'une source. C'est projeter la langue dans l'alchimie des langages du vivant. Je vous invite à lire haut, à lire fort, à ne pas craindre les silences ouverts dans le sillage des mots, à convoquer auprès de vous toutes les langues du monde, à vous laisser porter par la beauté de leur mélange, à inventer ensemble un en commun où la littérature devient le souffle d'une création de soi, dans une création du monde, sous les auspices de la beauté. Vous êtes les héros de la relation. Je suis auprès de vous, mes amitiés créoles, Patrick Chamoiseau. Bon, il a écrit un petit ouvrage récemment, Que peut la littérature? La littérature, ça peut ça, c'est mieux que Aller lire dehors, ça sera super. Et en fait, ce texte, c'est une réponse à une initiative qui a été faite du côté de Montpellier, dans le quartier de la Paillade, où Nourdine Bara, qui est habitant, auteur, metteur en scène, organise des agoras dans l'espace public depuis bientôt 10 ans. Et parmi les multiples dispositifs qu'il met en place, très concrets hein, pour apprendre dehors, il organise des bacs blancs de français, des oraux de bacs blancs de français sous la forme d'événements littéraires. Donc on vient faire se croiser dans l'espace public des personnes qui ont le temps un samedi après-midi d'aller écouter des lectures de textes classiques et des analyses, et puis des élèves un peu paniqués parce qu'en fin d'année, ils devront passer devant un examinateur dans une salle fermée, un seul examinateur, et qui vont donc vivre un baptême du feu en allant s'exposer à 30, 50 personnes aux incertitudes du dehors. C'était présenté ce matin, je crois, par le monsieur de l'école de design, ce côté incertitude. On vient répondre à la fois aux besoins de renforcer le lien social, de se saisir de l'espace public comme un espace de mixité sociale et ici par les pratiques culturelles. Et en même temps, on vient répondre aux impératifs de l'éducation nationale qui est de préparer une classe d'âge à passer son bac. Donc voilà, ce petit texte, c'était une respiration, mais c'était aussi pour vous dire que ça, l'apprentissage au dehors vient permettre de concilier de manière transversale de multiples intérêts. Et dans les politiques menées par les collectivités, et c'est ma conclusion, mais je le dis maintenant, les politiques publiques d'éducation dehors, c'est quelque chose qui vient répondre évidemment à des enjeux éducatifs, mais aussi à des enjeux sanitaires. Ça a été rappelé notamment par Frédéric Schaff ce matin, et je vous invite toutes et tous à lire le rapport du FCFEA sur la place de l'enfant dans la nature et dans la ville. C'est aussi une réponse à la transition écologique, ça a été abordé en filigrane par Madame Hazan, et c'est enfin une politique démocratique, et c'est un peu ce que tu disais, Céline, sur l'association des enfants, sur l'évaluation, par exemple, des commerces amis des enfants. Longue digression, j'irai vite sur le reste. Il se trouve qu'on organise une biennale internationale de l'éducation dehors, donc ça s'appelait les deux premières éditions Rencontre internationale de la classe dehors. Ça sert à plusieurs choses. D'abord, avoir un événement international, quand on fait du plaidoyer, ça permet d'avoir un agenda politique. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde, qu'il va y avoir de l'attention médiatique, qu'il est possible de ramener des élus, et que donc, potentiellement, ces élus, s'ils viennent, c'est pour dire quelque chose. Et donc, cette biennale, elle s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'émergence d'une politique publique de l'éducation au dehors. Et donc, la dernière à Marseille, elle a permis à trois députés, une députée Ensemble pour la République, donc le parti présidentiel, une députée socialiste et un député écologiste, de venir présenter donc Graziella Melchior, Florence Herouin-Léautey et Jérémy Yordanov, hein, je dis leur nom, de venir présenter une proposition de loi. Tout ça est une négociation, il n'y aurait pas eu de rencontre internationale. En fait, 10 minutes avant, on n'était pas sûr d'être tout à fait d'accord. Cette proposition de loi, aujourd'hui signée par 150 députés qui vont des communistes jusqu'à les républicains, vise à intégrer dans le code de l'éducation la question de l'éducation dehors. Et il y a un deuxième article qui porte sur le lien à la nature et l'accès à la nature dans la petite enfance. Je me retrouve parfaitement dans la définition de l'enfant 0 à 18 ans qui est portée par l'UNICEF. Donc voilà, Marseille, les actions locales, les expérimentations qui permettent d'avoir du souffle, c'est super, mais si ça ne fait pas politique publique, c'est un pis-aller qui permet de garder espoir, mais voilà, ça concerne 10 personnes et on s'en fout un peu si on a une visée politique et encore une fois de concerner l'ensemble des citoyens. Ces rencontres internationales, c'était super, c'était de la formation pour 2000 adultes, donc éduquer dehors quand t'es prof, en fait, t'as pas la chaise, la classe, les murs, c'est pas pareil, ça se forme. Quand tu es animateur nature et que t'avais un groupe d'enfants le mercredi après-midi, sans contexte pédagogique et éducatif, sans objectif programmatique, c'est pas la même chose que accompagner un enseignant dans une démarche d'autonomie sur des pratiques en plein air qui doivent à la fois intégrer une dimension relation au vivant, nature, culture aussi, parce qu'elle est dehors, quand on est à Issy-les-Moulineaux, il y a des parcs, mais il y a aussi une très belle mairie, une église, des noms de rues à étudier. Et donc, ça s'apprend. Et puis surtout, le concret. C'était un démonstrateur. Le prétexte de faire une biennale internationale, donc on devrait l'appeler le prétexte international de la classe dehors, donc on fait des lois et on déploie des choses. Je repars de ton stickers. Ça a été l'occasion de lancer avec Marseille. On reprend l'idée de Francesco Tonucci, un stickers pour les commerçants qui dit un enfant tout seul, il peut venir demander à faire pipi, demander un verre d'eau et demander à appeler ses parents. Avoir pu faire ça à Marseille, bah, ça me permet aujourd'hui, j'ai qu'une main, d'avoir Nantes, d'avoir Poitiers, et de vous dire que cet autocollant, il va être déployé dans plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de communes courant 2026. Parenthèse, on attend l'élection, en fait, tout simplement, que la réserve électorale soit passée. Ça aussi était l'occasion de cartographier Marseille à hauteur d'enfant. On peut avoir plusieurs définitions de ce que c'est qu'une carto. Et du coup, bon, d'abord, c'est de l'open data. Donc, ça veut dire que la carto qu'on a faite, t'es pas d'accord. Tu récupères les données et tu en fais autre chose. C'est le principe de la libre circulation des connaissances. Et cette cartographie, elle vise à identifier les lieux dans lesquels il est possible d'enseigner dehors, de mener des activités d'apprentissage à Marseille et donc faciliter le fait qu'un éducateur, un animateur, un enseignant puisse aller dehors. À la fois en identifiant des lieux parce que exceptionnels et qui peuvent permettre, quand on est sur les hauteurs de Marseille, qu'on est en 5e et qu'il y a la mondialisation, la métropolisation au programme, regarder l'étalement urbain de Marseille, c'est extraordinaire. Mais cette carte, c'est aussi dire où est-ce qu'il y a un arrêt de bus, des toilettes et de l'eau accessible. Donc c'est vraiment un outil pratique. Un troisième outil très concret, c'est Ah, celui-là, on l'a raté. C'est l'adoption de place. Rendons à la superbe association Rue de l'Avenir son idée. Donc, Rue de l'Avenir a développé depuis les années 90 les rues aux enfants. Et ils nous ont dit, mais il faut aller encore plus loin. Les places ont une histoire. Il y a 15 ans, les places publiques étaient des parkings. Mais en fait, elles ont toute une histoire. Et si nous proposions à des groupes d'enfants, dans le cadre du centre de loisirs, centre social et école, d'adopter ces places publiques, de les parrainer pendant un an, qu'est-ce que ça produirait ? Sur cette place, il y a des passants, il n'y a peut-être pas assez d'ombre et donc des aménagements à faire. Il y a un libraire qui organise régulièrement des dédicaces, il y a un marché à côté. Qu'est-ce que ça produit de faire adopter, parrainer à des groupes d'enfants sur le long cours des espaces publics ? On n'a pas réussi à le faire. Au moins, on sait que cette idée a eu beaucoup de sens. On a réussi à la rater, ce qui est un apprentissage, et on vous la soumet aujourd'hui. Deux dernières idées. L'université Orléans, on a la chance d'avoir encore une grande université publique en France. L'université recèle de compétences pour proposer des activités hors les murs aux enfants. Et vous allez me dire, très naturellement, c'est les IUFM, INSPE aujourd'hui, donc les futurs profs qui vont aller proposer ça. Oui, mais pas que. On a eu le Master 2 en droit privé qui nous a dit, mais c'est formidable, j'ai travaillé sur la question des discriminations et du handicap avec mes masters. Et en fait, on a fait une expo et en fait, on peut vous la déployer dans la rue et on serait ravis de pouvoir faire de la médiation auprès des collégiens. Les villes qui ont la chance d'être des villes universitaires disposent d'étudiants, d'agents publics qui ont dans leur mission le lien sciences et société, qui peuvent être une source extraordinaire de propositions d'occupation des espaces de nature et de culture avec les enfants. Allez les chercher, appuyez-vous sur eux. Et la dernière chose dont je voulais vous parler de manière très concrète toujours, c'est un concours qu'on a fait, on a été dépassé par son succès, qui s'appelait Marseille Ville Récréative. Je ne sais plus qui citait Thierry Paco ce matin, c'est quelqu'un avec qui on travaille beaucoup et ce concours, c'est son idée. L'idée, c'est imaginez la classe, c'est dehors 4 jours par semaine et dedans 1 jour. Ce n'est pas franchement ce qu'on souhaite, mais c'est pour libérer un peu les imaginaires. Comment on aménage Marseille ? Et donc, on a choisi 3 échelles. Échelle S, proximité de l'école. Et donc, on avait choisi 3 écoles rénovées récemment. Échelle L, on avait choisi un quartier de la ville de Marseille. Et échelle XL, où là, c'était la ville de Marseille. Et donc, designer, urbaniste, paysagiste, architecte, évidemment, artiste et systématiquement avec des enfants, se sont creusés la tête et ont proposé une 20aine de projets d'aménagement de la ville. Donc parfois, c'est en mouvement, c'est de la balade pédagogique et c'est comment le territoire devient apprenant. Parfois, c'est des aménagements. Un lauréat, c'est un étudiant de 19 ans, tout seul, qui nous a fait une oursinière. Ça ressemble à un oursin, mais sauf que c'est avec des branches de noisetiers. Et ça, c'est un petit espace ou un petit igloo de ville, en fait, dans lequel on peut se réfugier et faire des activités un petit peu sympas. Et ben voilà, ça a participé à ce concours que donc la Biennale de la classe dehors ont permis de générer. Ça a donné beaucoup d'idées qui sont aujourd'hui, l'expo elle tourne un petit peu partout et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez qu'on la déploie chez vous. C'est des idées qui viennent faire évoluer les appels d'offres, les marchés publics sur la rénovation des écoles, sur l'aménagement des espaces publics. Et c'est un concours qui, de la même façon, là on fait tourner l'exposition pendant un an, mais l'idée c'est qu'à partir de l'année prochaine, ce concours soit redéployé dans d'autres territoires. Donc voilà, ça c'est des choses très très concrètes qu'on peut faire pour faciliter l'éducation dehors et qui sont pour nous, l'éducation dehors pour nous c'est un moyen, c'est un levier pour faire ville à hauteur d'enfant. Toujours Thierry Paco, il dit aujourd'hui nous sommes tous des urbains, y compris les enfants ruraux, et donc penser la ville à hauteur d'enfant, ça fait nécessité si on veut mettre tous les enfants dehors. Et à ce titre-là, Marseille, c'était un sacré test, hein, parce que c'est pas la ville la plus facile.
De ton intervention, on peut l'applaudir. Tu lui as donné ? D'accord. Alors, Anne-Marie prépare quelques minutes. Dire que cette expérience de Marseille, l'éducation dehors, que j'ai eu la chance de participer l'année dernière, c'était une véritable aventure parce que moi, le dehors, c'était un peu compliqué, même si effectivement, on participe à un certain nombre d'études avec nos amis défenseurs des droits, l'UNICEF, le HCFR. Et d'une certaine manière, Benjamin m'a un peu provoqué en disant, écoute, tu viens voir. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, viens avec une idée. Et donc, je suis venu avec l'idée de, est-ce que je peux animer un atelier pour les parents dehors? Et donc, ça paraît un peu étonnant hein, sur les lieux de parentalité. Donc, aujourd'hui, sur l'espace parents-enfants d'Issy Moulineau, alors pas sur cette saison, mais l'année prochaine, nous allons imaginer, en quelque sorte, avec des parents, de quelle manière on peut aller parler de parentalité dans un parc et faire telle ou telle chose. Eh bien, à l'air de rien, ça n'est pas complètement la même chose que d'aller dans un lieu de type soutien à la parentalité entre quatre murs et d'initier de nouvelles modalités de cheminement avec des parents sur le fait comment on fait pour discuter. Alors, j'ai eu la chance à Marseille de m'expérimenter. Je parlerai tout à l'heure de Jean-François des SEMEA qui était présent dans l'atelier et qui a fait que je rencontre aujourd'hui Damien. Mais c'est des éléments extrêmement précieux. Et ce qui est très, très impressionnant depuis la matinée, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que en réalité, il y a des fils conducteurs dans chacune des interventions. C'est qu'on est tous attachés à la question primordiale de l'enfance en tant que sujet, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, en tant que créateur, pour reprendre l'expression de Céline, et que d'une certaine manière, c'est ce qui fonde nos pratiques pédagogiques.